Sans détour avec François Beauregard.
Bonjour tout le monde, ici François Beauregard, 25 novembre. L'hiver est à nos portes, on nous annonce déjà pour demain là, ce qui s'appelle maintenant, ce qu'il est convenu d'appeler un cocktail météo. Ça veut dire que tout peut arriver, ça dépend dans quelle région vous habitez. Quoi qu'il en soit, nous avons le plaisir, en parlant de région, bon, plus qu'une région, d'une province, nous aurons le plaisir de discuter avec Jean-François Boulanger, directeur de l'éducation du consortium Centre Jules Léger. C'est vraiment un collège qui a de multiples campus à travers tout l'Ontario francophone qui font des choses proprement extraordinaires, entre autres en termes d'inclusion. Isabelle Daigle, psychologue et professeure titulaire à l'Université de Montréal, sera en notre compagnie avec nous. On parlera d'une thématique qui est vraiment lourde, mais qui est incontournable. Les jeunes qui vivent avec une déficience intellectuelle subissent plus souvent des abus sexuels. Malheureusement, là, les prédateurs s'en prennent aux plus vulnérables et ce n'est pas facile comme situation à dénoncer, à repérer, ainsi de suite. Élisane Pellerin sera avec nous à 12h45 pour la revue de presse. Mais pour commencer, parlons sport. Je suis en compagnie de M. Samuel Lachaine et on va parler ensemble de Power Chair, un sport là, assez spectaculaire. Tout ça à sans détour. Bonjour Samuel, comment ça va?
Bonjour François, ça va bien toi?
Ça va très bien, merci. On parle de aujourd'hui, juste pour mettre ça un petit peu quand même en le portrait en place, Samuel, tu es un chroniqueur sportif de profession. Tu as fondé un site d'ailleurs qui s'appelle Sport Addict, A-D-D-I-K, exact. Mais on va profiter de ta présence aujourd'hui pour parler d'un sport que je connais un peu, qui est vraiment, c'est quelque chose à voir là. C'est le power chair soccer ou le foot fauteuil.
Alors, c'est un sport qu'on n'a pas beaucoup parlé.
On voit pas ça souvent à RDS là. Ça c'est sûr, ni TVA Sport, voilà.
Non, c'est ça. C'est pas un sport qui est super connu. Au départ dans les années 80, on a créé ça en Europe. Donc ça fait un certain temps, mais faut dire qu'au Québec, on n'entend surtout plus parler. Depuis peut-être une quinzaine d'années. Là.
D'accord.
Entre autres, c'est sûr que c'est plus populaire depuis 2006, en fait, parce que depuis 2006, c'est qu'il y a une fédération, justement, de Power Chair Soccer qui a été créée.
Une fédération voit ce que les règlements soient standardisés d'une compétition à l'autre, ainsi de suite. Ben, ça, c'est bien.
Oui, exactement. Il y a entre autres des Coupes du Monde qui ont été créées, des choses comme ça. Donc, ça permet justement de populariser le sport, si on peut dire comme ça.
Ben oui, tout à fait.
Internationaliser le sport.
Exact. Simplement, peut-être décrire de quoi on parle, parce que quelqu'un qui n'a jamais entendu parler, le Power Chair Soccer, là, de quoi s'agit-il?
Bon, c'est sûr que là, justement, on retire du nom soccer, donc c'est dérivé du soccer. Évidemment, ce qui se passe, c'est qu'on joue avec, justement, un ballon qui est deux fois plus gros que le ballon régulier quand on joue, justement, au soccer. Donc, dès le départ, on se retrouve avec des fauteuils roulants électriques, motorisés, si on veut.
Ah, d'où le mot « power chair », oui, ben, qui est l'expression anglaise pour décrire ça, oui, d'accord. Oui,
exactement. Puis, ça va jouer souvent dans un gymnase de 20 par 15 mètres, avec des deux buts, en fait, de 6 mètres au total, chaque but. Donc, on a deux équipes de 4 joueurs et c'est des deux buts de 20 000.
Et les quatre joueurs, peut-être, dans le schéma, peuvent avoir des positions déterminées. Je suppose qu'il y en a deux devant, deux derrière. Mais ça, pendant le match, tout le monde se retrouve un peu partout sur le terrain. Ce n'est pas des positions fixes.
Non, exactement. C'est quand même ouvert. Là. On peut quand même se promener un tout petit peu sur le terrain comme on veut. C'est sûr que probablement que quand on emploie des stratégies précises, certains joueurs vont se placer à un endroit précis ou selon leur spécialité peut-être. Mais oui, c'est quand même impressionnant. Comment c'est impressionnant? C'est que oui, justement, on peut vraiment aller partout sur le terrain.
Et évidemment, ben ça, ce sport-là, c'est destiné à tout le monde qui a un handicap physique important ou qui fait que ce serait impossible de pratiquer un sport sans l'utilisation d'un fauteuil électrique. Mais dans ce sens-là, il y a plusieurs catégories de limitations.
Oui, c'est ça qui est important à souligner là, quand même dans ce sport-là. C'est qu'on veut justement permettre à ceux qui sont vraiment obligés d'utiliser un fauteuil roulant motorisé de pratiquer le sport. On a séparé, dans le fond, selon les règlements, par deux groupes. Il y a le PF2 qu'on appelle. En fait, ça, c'est ceux qui ont un petit peu moins de limitations. Ça, par exemple, on a droit à deux personnes par équipe maximum de ce côté-là. Et puis, on a les limitations PF1, qui, ça, concerne un peu plus les grosses limitations où probablement, c'est plus que seulement la main qu'on peut utiliser pratiquement là, de notre corps. Donc, on veut quand même s'assurer que il y a une égalité là, dans le niveau de jeu, si on veut. Là,
oui, parce qu'il faut que les meilleurs gagnent. C'est ça l'idée, c'est que les meilleurs gagnent, à tout le reste étant plus ou moins égal. Là, il faut, c'est un peu comme les chez hockey sonore, il y a aussi une distinction sur le résidu visuel des joueurs qui ont un handicap visuel au hockey sonore. Mais il faut quand même, parce que ça demande une habileté sportive là, d'être bon au power chair.
Oui, mais c'est ça que je trouve spécial et intéressant de ce sport-là. C'est que quand même, là, pour une fois, on peut quand même permettre à des personnes qui physiquement ne peuvent pas pratiquer de sport physique de pouvoir quand même utiliser les mêmes stratégies, si on veut, d'un vrai sport. Là, entre autres, la maîtrise du fauteuil, évidemment, est le critère principal avec des habiletés précises. Mais il faut quand même aussi avoir des stratégies de jeu sur le terrain pour s'assurer de gagner les matchs, parce que c'est pas seulement les attitudes qui permettent de gagner. Il y a des tactiques collectives, évidemment, et aussi même la concentration et la maîtrise de soi, si on veut, pendant le match. Donc,
tout à fait. Bien, c'est d'abord, la première chose à laquelle je pense, c'est justement de bien connaître son fauteuil et ses capacités d'avoir une certaine habileté sur les commandes du fauteuil. Alors là, c'est sûr que dépendamment de la dextérité de la personne, ça va évidemment avoir un impact, d'où les classifications sur la mobilité. Mais en même temps, il faut être capable de mesurer le temps et l'espace. Est-ce que j'ai le temps d'accélérer puis d'aller chercher ce ballon-là? Où sont les adversaires? Est-ce que je devrais me replier? C'est toutes des questions de jugement instantané là, qu'on retrouve dans beaucoup d'autres sports.
Oui, exactement. Puis moi, c'est exactement pourquoi je retenais beaucoup ce sport-là. C'est que, étant justement une personne qui est atteinte de dystrophie musculaire de Duchenne, je sais qu'il y en a beaucoup de gens qui ont cette maladie qui jouent ce sport-là.
D'accord.
Parce que
est-ce que tu l'as essayé? Est-ce que tu l'as essayé?
Non, je n'ai pas essayé encore.
Non?
Mais ça semble quand même un sport que je pourrais éventuellement essayer. Là.
Oui.
Mais là, pour le moment, il y a beaucoup d'obligations. Puis,
d'accord. Et l'idée, évidemment, c'est de pousser le ballon dans le but du camp adverse, là, comme ça se retrouve dans beaucoup d'autres sports. Dans un match qui dure 40 minutes en tout, on parle de deux périodes de 20, les scores ressemblent à combien? C'est quoi un score typique? Est-ce que ça ressemble à 2-0 ou à 2-1 comme au foot? Ou est-ce qu'on parle de scores astronomiques?
C'est beaucoup plus offensif, je dirais.
Oui, hein? Oui, parce que le but est quand même grand.
Il y a 15 buts, pratiquement, là.
Oui, c'est ça. Oui, je peux comprendre, parce que c'est quand même un but qui a une surface 6 mètres, là. C'est presque 20 pieds, là. Alors, ça peut rentrer. Il y a des pays qui dominent. Il y a eu une Coupe du monde l'année dernière.
Oui, c'est ça que tout à l'heure je mentionnais, oui. En 2023, il y a eu une Coupe du monde présentée à Sydney, en Australie. C'est la France qui a gagné.
Okay.
Je sais que les pays européens sont beaucoup plus forts avec ce sport-là. J'en ai aucune idée pour quelle raison, mais je sais qu'en fait, la France et l'Angleterre sont des puissances. Du côté du Canada, mais en fait, là, c'est sûr que, comme je disais, on n'est pas encore un sport hyper... pour nous, le sport n'est pas encore hyper populaire autant, mais je sais que en 2011, ça a commencé vraiment au Québec, parce que c'est le premier pays vraiment en Amérique qui présentait quand même ce sport-là. Donc, pour être devant même les États-Unis, ça veut dire quand même qu'on est
Bon, on est pas mal, oui.
Ouais.
Ben, tout à fait. Mais je sais que j'avais, l'hiver dernier, il y avait des compétitions qui avaient lieu sur la rive sud de Montréal, au centre sportif du Collège Édouard Montpetit, je me souviens de ça. J'avais suivi ça un petit peu. Ce n'est pas encore un sport paralympique, cependant. C'est encore une étape à franchir.
Puis c'est pour ça, justement, que j'avais envie d'en parler, parce que, oui, je le sais effectivement que c'est pas encore un sport paralympique, puis qu'on pousse beaucoup, justement, pour permettre à ce sport-là de l'être. Puis ça serait intéressant de l'avoir, là, en cet état, on l'a vu, là, avec les derniers Jeux paralympiques. Il y a tellement de beaux sports présentés. Je pense que même le Power Chair mériterait d'avoir sa place aussi.
Oui, ben tout à fait. Puis il n'y a rien comme une visibilité dans un événement d'une taille comme les Paralympiques pour après ça qu'il y ait encore plus de gens à la base qui puissent s'y intéresser. Si je veux faire, si je me qualifie, que je veux faire du foot-fauteuil, où est-ce que je m'adresse? Comment je commence?
Je sais qu'au Québec, entre autres, il y a la Fondation Parasport Québec qui gère tout le Power Chair.
Okay. Soccer,
donc, c'est eux vraiment qui vont pouvoir plus te diriger si tu souhaites plus faire du récréatif ou du compétitif, parce que je sais que les deux sont à faire. Donc, récréatif, c'est un petit peu plus pour le plaisir. Là.
Ben, moi, je commencerai récréatif parce que là, ça serait un peu prétentieux de dire que dès le premier match, là, je vais être dominant. Là. C'est pas vrai. Donc, on peut rejoindre Parasport Québec. Si je ne me trompe, ils ont un site web, Parasport au pluriel, parasportsquebec.com, 514-252-3108, puis on peut s'enquérir de ça. Oui, parce que il y a des compétitions déjà régionales, provinciales, et il va y avoir, je crois, une autre Coupe du Monde bientôt.
Oui, la prochaine Coupe du Monde va être présentée en Argentine en 2026.
D'accord.
Donc, peut-être que là, éventuellement, on va commencer à prouver ce sport-là, pour les Paralympiques.
Exact. Et si le Canada peut être représenté, ben, ce serait formidable. Moi, j'invite tous ceux pour qui ça peut être intéresser, là. Si vous allez sur YouTube, il y a des vidéos de Power Chair.
Oui, oui.
Ça, il y en a. S'il y a des compétitions, vous informez auprès de Parasport Québec, peut-être qu'il y a des compétitions qui ont lieu au courant des prochaines semaines, si vous allez là. Parce que c'est vraiment intense, là. C'est pas pour les touristes, là, au niveau compétitif, là. Ça bouge. Mmh.
Ouais. Et même sur place, là, j'inviterai les gens, s'ils veulent aller voir, là, au mois de mai, là, lorsqu'il y a le défi Altergo, là.
Oui.
Je sais aussi que souvent, il y a des compétitions chaque année qui sont présentées, là.
C'est vrai.
Justement pour faire découvrir le sport aux gens.
Exact.
Et peut-être donner envie d'avoir un bassin plus grand de joueurs et
tout à
devenir
fait.
Un pays encore plus fort international, là.
Ben, c'est super. Oui, c'est important de bouger, puis que ce soit par soi-même ou avec l'aide de son fauteuil, là, mais il y a toute une dynamique dans un sport d'équipe aussi pour l'estime de soi, pour le côté sociable, puis ça nous sort de notre coquille aussi. Ça, c'est certainement important. Ben, merci beaucoup, Samuel. On va avoir l'occasion de se reparler peut-être de d'autres sports à découvrir au courant des prochaines semaines. Je te souhaite d'ici là, ben peut-être de t'inscrire. Hein?
peut-être qu'à la prochaine chronique, je vais pouvoir en parler.
Ben oui.
Je suis content d'avoir
de ton expérience
avec toi aujourd'hui.
Parfait. Ben merci, bonne fin de journée.
Merci, bye bye.
C'était Wojtek Mazolewski Quintet, que je suppose être des musiciens polonais, mais ça, c'est peut-être une devinette facile. Et ça s'appelle Beautiful People. Voilà, Wojtek Mazolewski, M-A-Z-O-L-E-W-S-K-I. Si vous voulez poursuivre sur ce thème musical après l'émission. J'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie M. Jean-François Boulanger. Bonjour, M. Boulanger.
Bonjour, François. Ça va bien?
Ça va très bien. Je vous remercie. Vous êtes directeur de l'éducation du consortium Centre Jules Léger. Le consortium Jules Léger, c'est vraiment une très belle histoire. D'abord, vous avez reçu un prix, le prix Horizon franco-ontarien, qui souligne tout de même 40 ans d'éducation spécialisée pour les élèves francophones en Ontario, de la maternelle à la 12e année, dis-je. Enfants qui sont sourds, malentendants, sourds, aveugles, basse vision et avec peut-être des difficultés d'apprentissage. Mais ça l'a fait beaucoup de chemin en 40 ans, consortium Jules Léger. Peut-être pour nous mettre un peu le décor en place, là, comment ça a commencé? Puis depuis quelques années, maintenant, vous êtes autonome. Parlez-nous-en.
Oui, absolument. Donc, merci pour la question. Donc, c'est une grande question parce que ça fait 40. On dit, nous, c'est 40 plus 5 ans qu'on existe en ce moment.
D'accord.
Donc, on va fêter un 45 ans. Donc, le consortium Centre Léger a vu le jour en 2020. Donc, c'était à la suite de revendications de plusieurs personnes qui voulaient justement, dont le commissaire la francophonie de l'Ontario, qui voulait que le centre soit gouverné par et pour les francophones. Donc, le 17 août 2020, le consortium est devenu autonome.
D'accord.
Ce que ça veut dire, c'est que le 40 ans avant, le centre Jules Léger était géré par le ministère de l'Éducation. Et là, je vais dire, j'utilise des guillemets, là, mais ici, c'est parce qu'il a été aussi géré par l'Université d'Ottawa à un certain moment, dans les tout débuts. Et ça, on parle de 1979 jusqu'à 2020.
D'accord. Mais depuis 2020, c'est un centre qui est géré par les francophones, les franco-ontariens et pour le bénéfice des franco-ontariens. Et ça, ça vous a permis de prendre un envol encore plus haut.
Absolument. Puis, dans le fond, notre premier plan stratégique avait comme objectif, ou le thème s'appelait « vent de changement ». Donc, pour ceux qui connaissent les vire-vents, là, on utilisait le vire-vent comme étant un symbole. Le vent pousse à travers le vire-vent et puis ça fait... bouger les choses, ça crée des couleurs, puis oui, absolument, on a vraiment évolué, là, je dirais, dans les derniers 5 ans.
Et votre centre couvre quand même, vous êtes basé à Ottawa, mais en fait, vous avez deux institutions qui travaillent parallèlement, si je peux dire.
Oui, donc nous, on est situé à Ottawa, mais notre objectif, on a une équipe de consultants, des experts conseils qui sont un peu partout en province, et qu'on a des gens qui habite jusqu'à Cochrane, dans le nord de l'Ontario.
Dans le nord,
oui. Parce que je viens du nord de l'Ontario.
Quand on est à Cochrane et on regarde vers le sud, on est dans le fond aussi.
Oui, c'est sûr. moi, je viens du nord d'Ontario aussi. Okay. Je connais très bien le nord. Puis on a des gens aussi qui sont situés dans le coin de Sudbury et dans le coin de Toronto. Et notre objectif, c'est oui, à la fois, on est à Ottawa. On accueille des élèves à Ottawa. Puis par contre, c'est des élèves qui viennent de partout en province. Fait qu'on a des élèves actuellement qui sont de Thunder Bay, de Timmins, de Windsor, de Toronto, qui viennent à l'école ici, dans nos écoles ici, mais on a aussi une équipe qui répond aux besoins des 12 conseils scolaires de langue française partout en province.
Et vous avez le début, en fait, je peux dire l'essence du Centre Jules Léger, c'est l'éducation du début à la fin du parcours scolaire d'enfants qui vivent avec une surdité, une cécité ou les deux à la fois. Mais il y a aussi un programme de logement éducatif, ça c'est intéressant.
Oui, donc nos élèves, comme je disais tantôt, ils viennent de partout en province, mais... Les élèves, ils vont pouvoir dire dans leur vie qu'ils vont venir à l'école en avion un jour, c'est vrai. Nos élèves se déplacent le dimanche, puis ils reviennent à la maison le vendredi. Puis on fait ça pendant 10 mois, parce que justement, on a quand même une pédagogie ici qui est basée sur la recherche. On est accompagné de chercheurs dans différents domaines. Puis on souhaite, dans la rééducation avec l'élève, que quand l'élève nous arrive, il n'est plus le même une fois qu'il quitte.
Oui, puis vous devez avoir eu des témoignages de parents, entre autres, qui ont pu constater la transformation chez leur enfant.
Absolument, parce qu'on travaille non seulement le côté académique, mais le côté socio-émotionnel. Donc, le programme de logement éducatif se passe en dehors des heures scolaires. Puis, bien sûr, il y a le dodo là-dedans, mais il y a aussi toute la question de l'accompagnement de l'élève dans les activités en soirée. Puis, les activités sont très variées. Donc, l'année passée, le programme de logement éducatif a organisé au-delà de 280 activités.
Oh, là, on parle de, okay.
Là, on parle de 194 jours d'école. Fait que les gens, ils travaillent très fort justement pour créer un environnement où ce que l'élève peut se dépasser, mais aussi peut vivre des succès, puis à partir, bien sûr, du profil de l'élève.
Ben, quand on parle de 280 activités, comme quoi, par exemple, ça fait beaucoup, ça?
Ben, des fois, ça dépend. Je veux dire, ça peut être aussi simple qu'un club de marche, que, ouais, par exemple, faire de la poterie, aller jouer à l'extérieur au hockey, aller voir les Sénateurs d'Ottawa, aller prendre une marche dans le parc de la Gatineau, aller vivre une expérience dans un restaurant, parce que, et puis aller au cinéma, parce qu'il y a plusieurs éléments où ce que l'élève devient autonome.
Oui.
Donc, lui, il est responsable de lui-même. S'il va au théâtre, par exemple, puis il décide de payer pour son aller au cinéma, mais ça, ça lui a décidé, puis ça lui a géré son argent. Il y a des apprentissages à faire dans chacune des activités qui sont proposées.
Oui, parce que les jeunes arrivent chez vous au tout début du parcours scolaire, puis ils peuvent littéralement faire tout le primaire, tout le secondaire. Puis quand ils sortent de chez vous, ils ont une reconnaissance d'une éducation complète, là.
C'est ça. Puis je vais dire qu'on a plusieurs programmes différents. Par exemple, les élèves qui sont ici pour les troubles d'apprentissage sévère, c'est des élèves qui nous arrivent, ils ont surtout 10 ans et plus.
D'accord.
Jusqu'à un maximum de 15 ans. Puis les élèves qui nous arrivent, par exemple, en cécité, en basse vision, en surdité, surdicécité, c'est des élèves qui nous arrivent la plupart du temps un peu plus vieux. Puis, par contre, les élèves qui sont de la région d'Ottawa, oui, on a des élèves qui nous arrivent à 4 ans, puis ils restent ici jusqu'à temps qu'il y a un diplôme secondaire, un certificat ou le marché du travail.
D'accord. Ben, comment vous allez pouvoir continuer à rayonner? Parce qu'évidemment, votre défi, c'est d'aller rejoindre ceux qui sont plus loin, aussi loin que vous dites Thunder Bay, ainsi de suite. Là, c'est vraiment... c'est grand l'Ontario, hein? Oui, exact, tout à fait. Comment ça marche, votre collaboration avec les conseils scolaires?
On est un partenaire. Dans le fond, eux sollicitent nos services. C'est pas une question financière. Bien sûr, c'est plus une question de partenariat.
D'accord.
On a aussi, bien sûr, une très belle collaboration avec le ministère de l'Éducation. C'est eux qui ont créé, dans le fond, notre organisme, là où on est en ce moment. Donc, c'est certain qu'il y a une collaboration aussi en lien avec le financement. C'est un financement qui est évolutif, bien sûr, parce qu'on a aussi augmenté quand même pas mal nos effectifs au niveau d'élèves. Dans une des écoles, on est passé de quasiment tripler le nombre d'élèves.
Okay.
Dans l'autre, ben, on a augmenté. Mais on parle pas des grands nombres ici, là, parce qu'on parle quand même des plus petits nombres, mais on travaille quand même avec des jeunes qui ont des besoins particuliers,
oui,
auxquels on doit trouver aussi des membres du personnel pour répondre à leurs besoins.
Exact, oui, parce que vous devez avoir un ratio entre les intervenants, élèves intervenants, là, qui soit quand même assez fort. Il faut qu'il y ait surtout si c'est un apprentissage qui est presque 24 heures, si je peux dire, là. Du lundi au vendredi, c'est pas rien. Votre financement vient du ministère ou vous avez d'autres activités autour de ça?
Il vient du ministère pour le moment. Puis, comme je disais tantôt, c'est certainement évolutif parce qu'on est devenu une entité donc, qui, à part du fonctionnement de la logistique qui était, dans le fond, gouvernée par le ministère de l'Éducation avant. Donc, ça l'a passé sous le silence, ce transfert de gouvernance-là, parce qu'on a vécu autre chose en 2020.
Oui, bien, c'était pas ça la manchette, oui, c'est vrai.
Oui, c'est ça. Elle a passé un peu sous le silence. Puis en même temps, ben, le ministère et nous, on comprend que c'est en évolution. Puis un bébé qui commence à marcher, puis aussi des besoins, ben, c'est un peu ce qu'on exprime en ce moment. Puis on est plus nécessairement le même organisme qu'on était en 2020.
D'accord. Alors, mais vous devez avoir, vous n'avez pas de crainte qu'il puisse y avoir des coupures ou des choses comme celle-là, parce que souvent, dans l'éducation spécialisée, là, c'est pas, vous êtes en concurrence avec beaucoup d'autres demandes dans le système. Vous avez combien d'élèves en ce moment dans votre école au total?
Nous, environ, on dessert ici sur les lieux, il y a environ une centaine d'élèves.
D'accord.
Puis on dessert en tout là, environ 500 autres élèves en province.
Un peu partout, OK.
Oui, on dessert 600 élèves à peu près.
Bien, ça vaut certainement la peine de poursuivre. Bien, je vous souhaite bonne chance, M. Boulanger. Le consortium Centre-Jules-Léger est un bel exemple à suivre, pas juste en Ontario francophone, mais partout. Merci beaucoup.
Merci pour l'invitation. Bonne journée.
François Beauregard.
Oui, rebonjour après la pause. Bien, on est de retour avec un sujet qui est difficile, mais c'est peut-être ma première réaction. Je ne veux pas paraître pessimiste par rapport à la nature humaine, non, mais moi, ça ne me surprend pas. Voilà. J'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie Mme Isabelle Desgnaux, psychologue, professeure titulaire à l'Université de Montréal. Bonjour, Mme Desgnaux.
Bonjour. Merci de l'invitation.
Ah, ça nous fait plaisir. Les études que vous menez avec vos collègues démontrent que les jeunes qui vivent avec une déficience intellectuelle subissent beaucoup plus d'abus sexuels sous toutes sortes de formes, et en plus de souffrir davantage, évidemment, des conséquences de ces lourds traumatismes. Comment vous avez mené d'abord votre étude, juste pour être certain qu'on... On ne parle pas au travers de notre chapeau. Oui. Dieu sait que ce n'est pas le cas.
Bien, c'est une étude vraiment novatrice, là, je dirais. Donc, on a corrigé beaucoup de défauts des études antérieures.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on a, on est allé dans les dossiers de la DPJ, puis les dossiers de la RAMQ, ministère de la Santé et des Services sociaux, recueillir des données administratives là, qui existaient déjà. Donc, sur une période de 10 ans, là, tous les signalements fondés en abus sexuels dans la région de la ville de Québec. Donc, c'est une petite étude pilote, là, juste pour tester nos hypothèses. Et on a un peu moins de 1000 enfants là, qui avaient des signalements qui ont été jugés fondés en abus sexuels durant cette période de 10 ans-là. Puis, on a constitué un groupe de comparaison à parier, donc c'était 882 enfants, là, dans le fond, de jeunes abusés, d'un autre groupe de jeunes qui vivaient sur le même territoire, donc autour de la ville de Québec, qui étaient nés, donc pour chaque enfant abusé, un autre enfant qui est né le même jour, pas le même jour, le même mois, la même année, qui avait le même sexe enregistré là, donc à la RAMQ, puis on a comparé, dans le fond, les problèmes de santé, puis la déficience intellectuelle de ces deux groupes-là. C'est ça qui nous a permis de conclure là, que parmi le groupe de jeunes abusés, il y avait 3,5 fois plus d'enfants qui avaient une déficience intellectuelle. D'accord. Que dans le groupe de la population générale.
D'accord. En fait, on peut dire que toute autre chose étant égale, les enfants qui vivent avec une déficience intellectuelle sont 3 fois, presque 4 fois plus susceptibles de subir des abus. Et quand on parle d'abus sexuels, est-ce qu'on parle uniquement physique ou de violence ou sous d'autres formes ou... Est-ce que c'est littéral?
Littéral, c'est-à-dire que ça varie. Là. Il y a des formes d'abus sexuels là, qui sont retenues à la DPJ qui vont être des attouchements sans pénétration, par exemple.
D'accord.
Mais,
C'est terrible, ça. C'est à désespérer la nature humaine. C'est sûr que les prédateurs partout dans le règne animal s'en prennent toujours aux plus faibles. Alors, c'est le même pattern ici.
C'est une des hypothèses, là, effectivement, que il y a deux hypothèses. Disons, une étant que peut-être que les enfants qui ont une déficience intellectuelle, comme ils ont plus de services, il y a plus d'adultes professionnels autour d'eux, peut-être qu'ils sont davantage signalés.
C'est vrai.
Clairement, là, ce ne serait pas la seule hypothèse. Là, l'hypothèse de la vulnérabilité est celle qu'on retient le plus souvent, là, c'est-à-dire que les agresseurs qui souhaitent avoir des relations sexuelles, des contacts sexuels avec des enfants vont chercher ceux qui sont les plus vulnérables. Là.
Oui, tout à fait. Et qui sont souvent les moins susceptibles de pouvoir les dénoncer aussi. Parce
Exactement.
Que ça doit être une problématique importante, ça, en déficience intellectuelle, que l'enfant puisse comprendre la gravité l'interdit de ce qui arrive. Là,
Exactement.
Sans culpabiliser, là, mais que c'est quand même pas correct de ce qui se passe.
Ouais. Oui, tout à fait. Ben, c'est probablement un des aspects qui les rend vulnérables, justement, là, que les agresseurs vont croire qu'ils ne porteront pas plainte ou ils ne vont pas les dénoncer, ou que s'ils le font, ils seront peut-être moins crus là, que d'autres enfants. Ouais.
Il y a aussi, comme vous disiez, la fréquence des contacts. Souvent, des enfants qui vivent avec une déficience intellectuelle, comme vous dites, sont dans des milieux extra-familiaux.
Exact.
Ça peut, avec beaucoup de gens qui les connaissent peu ou pas... Alors, il y a cette distanciation aussi qui peut-être est un facteur d'augmentation du risque. Là.
Oui, j'essaie parce qu'on voit, dans la population générale, on voit le risque augmenter chez les enfants au fur et à mesure que ceux-ci sont davantage en contact avec des étrangers.
Oui.
Même si le plus souvent, les agressions sont aussi intrafamiliales, c'est pas qu'à l'extérieur. Mais donc, pour les jeunes qui ont des déficience intellectuelle, effectivement, le fait d'avoir des adultes qui en prennent soin, donc moins de supervision parentale, on pourrait dire.
Oui, d'accord.
Dans certains contextes, peut les placer plus à risque, là, effectivement.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des moyens pour qu'est-ce qu'on peut faire? Comment le système les protège ou les mécanismes de dénonciation, d'intervention? Ça me semble, il me semble terriblement vulnérable et presque assis au milieu de la route là, dans le trafic.
Oui, je comprends. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Dans le fond, c'est votre question. On en est même juste à commencer à documenter qu'est-ce qui est fait.
Oui.
Là. Nous, de ce qu'on voit pour l'instant, c'est que d'abord, on avait très peu de connaissances là, sur ce plus grand risque-là, les conséquences, etc. Donc, on commence comme assez récemment à avoir des bonnes connaissances sur le sujet, même si ça peut être assez évident. Là, comme vous le dites, vous n'êtes pas surpris d'apprendre ça. Mais on constate donc qu'il y a très peu. Déjà, il y a peu d'interventions, par exemple, d'éducation à la sexualité. Là, on vient de recommencer au Québec. C'est assez récent qu'on est revenu, on a remis sur la table des cours d'éducation à la sexualité. Mais ceux qui sont existants à l'heure actuelle ne sont pas adaptés pour les jeunes qui ont une déficience intellectuelle ou d'autres problèmes de développement. Donc, en général, le peu qui est offert ne leur est pas offert à eux.
Oui.
Nous, avec notre groupe, avec mes collègues Geneviève Paquette notamment et Jacinthe Dion, on a d'autres fonds de recherche sur lesquels avec lesquels on commence à documenter les interventions, les services, etc. Donc, il y en a peu, ça c'est la conclusion, mais je viens d'apprendre là, récemment que la Fondation Marie-Vincent, qui est à Montréal, qui offre des services aux jeunes
qui est dans ce créneau-là, tout à fait.
Exact. Eux ont commencé là, à développer, ils appellent ça le programme VOIES, le VOIES. Ils ont des petites capsules vidéo qui ont été développées, mais ils font un projet pilote là, l'hiver qui s'en vient justement auprès d'intervenantes professionnelles qui interviennent avec les jeunes qui ont des besoins particuliers, donc incluant les jeunes qui ont des déficiences intellectuelles. Puis ils vont commencer à former les intervenants, puis éventuellement peut-être même là, les parents à comment on fait une bonne éducation à la sexualité là, qui peut être appropriés pour eux, là, dans le fond, à leurs besoins.
Exact. Parce que c'est hors de notre sujet d'aujourd'hui, mais c'est un autre tabou, comme quoi les personnes en situation de handicap n'ont pas de sexualité.
Exact.
Ça, c'est comme un autre truc à déboulonner. Mais voilà, et ça a des conséquences, ces vices-là qui sont subis. Ça va marquer, mais de façon parfois presque invisible, la vie de ces jeunes-là.
Bien, si on ne le documente pas, effectivement, là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a documenté les diagnostics là, qu'on trouvait à la Régie de l'assurance maladie du Québec, ministère de la Santé et des services sociaux, là, donc des consultations. Donc, quand les enfants vont consulter, on peut voir les diagnostics qui les ont menés à consulter, donc de problèmes de santé physique, de santé mentale. On voit dans les deux cas là, que les jeunes... Bien, ça, notre étude, elle est limitée, là, c'est-à-dire qu'elle nous donne l'impression qu'ils ont probablement des conséquences plus néfastes au niveau de la santé physique et de la santé mentale, là, deux fois plus, disons, de consultations pour ces problèmes-là. Mais notre échantillon, quand on avait presque 2000 participants, mais c'était quand même trop petit pour faire les analyses qu'on voulait faire. Donc, on n'a pas terminé là, de tester ça, mais l'impression que ça nous donne, c'est peut-être qu'ils subissent davantage là, des effets néfastes, là, deux fois plus qu'en toute consultation.
Là, je m'avance c'est une hypothèse d'un profane, on se comprend. Là. Peut-être que la résilience, qui est une façon de survivre dans l'existence là, pour toutes sortes de chocs qui peuvent nous arriver, peut-être les notions de résilience peuvent être parfois plus difficiles ou il peut être avec des enfants qui vivent avec des déficiences intellectuelles, est-ce que risque-t-il ou elle d'être marqué plus longtemps que le même enfant, toute chose étant égale, qui n'auraient pas
d'avoir,
une déficience.
Ou d'avoir moins de ressources ou moins de pour faire de stratégie pour faire face.
Ou de capacité d'aller chercher de l'aide.
Effectivement. Ben, c'est une bonne hypothèse là, qu'il faudrait tester. On a besoin encore de clarifier est-ce qu'effectivement ils ont plus de difficultés qui découlent de la bisexuelle. Et donc, une fois qu'on aura confirmé ça, on pourra aller voir là, qu'est-ce qui fait en sorte que ces difficultés-là sont plus importantes, puis là, d'avoir des meilleures. Mais c'est une bonne piste, là. Merci. J'ajouterai ces
questions. Parce que s'ils sont dans l'immédiat plus vulnérables, on peut penser que ça peut être plus difficile. Sur le long terme, il y a des séquelles, des fois, qui font surface longtemps après. Et des fois, ça peut être difficile pour eux ou pour elles de relier ça à tel ou tel événement dans le passé. Mm-hmm.
Tout à fait. Chez les adultes, c'est un des facteurs de résilience, ce qu'on appelle la mentalisation, la métacognition, donc la capacité de recul sur ce qui est arrivé, de faire un sens des événements. Donc, on pourrait le supposer aussi comme un facteur de protection pour ces jeunes-là également. Il faudrait aller étudier ça, effectivement. Oui.
D'accord. Et dans tous ces dossiers de... Parce que là, en fait, ce que vous avez utilisé comme matière brute pour votre analyse, ce sont les cas qui ont été rapportés, où on peut, par rapport à une population témoin similaire en toute chose, sauf quant au handicap ou à la déficience intellectuelle, on peut supposer que c'est trois... on constate que c'est 3,5 fois plus, on peut imaginer toute la pointe de l'iceberg ici, là, parce que c'est difficile de savoir sur chaque cas rapporté qui est probant, combien ne le sont pas. C'est ça qui est épeurant.
Bien, on le sait un petit peu. Là, on a des études qui nous disent, quand on interroge les adultes, là, pas nécessairement qui ont une déficience intellectuelle, mais les adultes en général... seulement une personne sur 10 qui nous dit avoir subi des mauvais traitements dans l'enfance a été en contact avec la protection de la jeunesse. Donc, on suppose que nous, le 3,5 fois plus qu'on voit, ce serait... Bon, faut le multiplier là, pour les deux groupes, là, autant les enfants qui ont une déficience.
Tout à fait.
Non, pas, donc, effectivement.
On peut penser que le fait que les sévices passent inaperçus peut être... Cette stratégie dégoûtante de la part des prédateurs de s'en prendre à quelqu'un moins susceptible de faire une dénonciation, on peut supposer que cette stratégie-là fonctionne jusqu'à un certain point. Alors que, donc, dans la réalité, le multiple est peut-être encore plus élevé.
Exact,
ouf, ça donne froid dans le dos, ça.
Oui.
Je suis désolé de vous dire ça, Mme Daigneault, mais vous faites bien de fouiller parce que ça ne se réglera pas tout seul.
Non. Mais on a quand même de l'espoir, là, avec, c'est-à-dire que mieux on connaît, puis plus on développe des interventions préventives d'éducation à la sexualité qui vont être adaptées. Là, c'est déjà un peu moins tabou pour qu'on puisse dire qu'il faut en développer, il faut former les gens.
Tout à fait.
Ça me donne espoir là, devant la Fondation Marie-Bertrand, qui développe des interventions.
Comme dans presque toutes les problématiques, il n'y a rien comme l'éducation pour remettre les choses en ordre. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On souhaite vraiment que votre étude soit porteuse et qu'elle trouve un écho là où elle doit en trouver un. Merci beaucoup.
Je le souhaite également. Merci à vous encore de l'invitation. Au revoir.
Three.
Non, excusez, il ne comprenait pas ma réponse, mais il n'y avait pas de question. Bonjour. De retour avec Élisane Pellerin, nous étions hors onde en train de discuter des joies de l'intelligence artificielle dans les services à la clientèle. Alors, hier, j'avais du plaisir à essayer de faire comprendre à une intelligence artificielle que je ne pouvais pas répondre à sa question, étant donné qu'elle ne m'avait pas encore posé de question. Alors, quand je lui disais « Quelle est votre question? », l'intelligence artificielle me répondait encore « Je ne comprends pas votre réponse. » Bien, c'est sûr, c'est une question.
Voilà. Ouf!
On a tourné en rond. Puis, je pense que je vais aller face à face avec un humain dans le magasin.
Oui, voilà, c'est mieux, François.
Bonjour, Élisane, comment
Bonjour,
ça va?
Bonjour, François,
ah,
ça va bien,
je m'excuse
vous?
Pour mon épanchement de mes frustrations.
Ça va, il faut bien en parler, il faut que ça sorte.
Vous savez qu'aujourd'hui, on est le 25 novembre.
Oui, je sais.
C'est la Sainte-Catherine.
Non, ça, je ne savais
pas. Connaissez
pas
ça, la Sainte-Catherine?
Non, c'est d'accord. Pas de mon âge, j'imagine.
Ben, peut-être. C'est une tradition à la Sainte-Catherine. Avez-vous déjà entendu parler de la tire Sainte-Catherine?
Oui, ça oui.
Ah, ben voilà. Alors, la tire Sainte-Catherine, on fait ça à la Sainte-Catherine.
Ah, voilà.
Quand j'étais petit, chez moi, il y avait, à chaque année, au 25 novembre, il y avait une grande fête dans la cuisine de tire.
Oh,
oui,
okay.
Oui. Et puis, je me souviens qu'après, à la fin de l'après-midi, il y avait comme beaucoup de chaudrons très collés dans le lavabo. Mais on finissait par avoir...
Et beaucoup d'enfants qui couraient.
Beaucoup d'enfants qui avaient mangé beaucoup de tire.
Oui.
Alors, ça ne devait pas être une fête pour mes parents, mais j'étais petit, je ne m'en apercevais pas. Voilà, on a parlé du 25 novembre, qui est aussi, malheureusement, la journée internationale, heureusement, façon de parler, malheureusement pour ce que c'est, la journée internationale de la violence faite aux femmes.
Oui, effectivement.
Et ça, c'est un sujet autrement plus sérieux que la tire Sainte-Catherine.
Oui, quand même.
Voilà. On en a parlé un peu la semaine dernière. On en reparlera au cours de la semaine prochaine, d'ailleurs. On a quelqu'un qui vient nous parler de la violence faite aux femmes en situation de handicap. Cela dit, commençons notre revue de presse.
Commençons, François.
Voilà. La trisomie 21, c'est vraiment incroyable comme avancée scientifique, là.
Oui, on a donc des résultats positifs dans l'étude d'un traitement visant à améliorer la fonction cognitive. Ça a été publié donc, dans le Genetic Magazine. C'est la société Alice Pharma, une société biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies du cerveau, qui a annoncé des résultats positifs pour une étude de phase 1,5 chez les jeunes adultes portant de trisomie 21. L'entreprise a développé une nouvelle classe de médicaments qui sont des inhibiteurs spécifiques à un récepteur, donc, dont l'objectif principal était d'évaluer la sécurité et la tolérabilité, oui, de la molécule. Dans le contexte où les personnes de trisomie 21 sont connues pour être plus vulnérables et pour avoir plus de problèmes de santé.
Ben oui, parce que c'est important, si on trouve un médicament ou quelque chose, une molécule qui puisse être efficace, en même temps, il ne faut pas rendre les gens malades. Ils ont été il y avait au total 29 jeunes adultes. Évidemment, ce n'est pas un échantillon très large. Âgés de 18 à 35 ans qui ont participé, ils ont été traités une fois par jour pendant 4 semaines, soit avec des doses orales du médicament à l'étude, soit avec un placebo. Alors, c'est sûr qu'un groupe témoin de 15 et un groupe d'une autre quinzaine, ça ne fait pas beaucoup, mais sur la base de ces résultats, on prévoit lancer dès 2025 une étude internationale multicentrique de phase 2. Oh!
Oui, donc c'est quand même intéressant. Après, il faut mettre des bémols, François. C'est la compagnie pharmaceutique donc, qui a publié ses propres résultats.
Ah, d'accord.
Donc, évidemment, là, c'est de l'argent. Ça a été donc financé par...
La société.
C'est la société elle-même, donc il faut toujours faire attention.
Il faudrait qu'il y ait quand même une avalisation par des scientifiques indépendants.
Donc, dans ces cas-là, effectivement, on attend qu'il y ait des scientifiques indépendants qui se penchent sur ces cas pour effectivement valider. Parce que, évidemment, quand on met énormément d'argent dans une étude, on veut toujours que les résultats soient positifs. Donc, des fois, on a tendance à tourner coin rond et je ne dis pas que ça s'est passé dans ce cas-ci,
mais
il va falloir valider un peu plus loin. Oui. Mais cela dit, c'est encourageant pour des premiers résultats et on verra la phase, quand j'aurai la phase 2 avec un plus grand échantillon, ce que ça va donner.
Exactement. Il semble que l'administration de la molécule a permis de diminuer de manière significative l'activité électroencéphalographique. En d'autres termes, l'activité requise par le cerveau pour les tâches de mémoire et donc de permettre que les jeunes adultes qui vivent avec une trisomie 21 n'aient pas besoin de faire tant d'efforts de concentration, ce qui parfois est le cas. C'est le professeur Raphaël de la Torre Fornell de l'hôpital Del Mar Medical de Research Center Institute, enfin on parle de l'espagnol en anglais, à Barcelone, investigateur principal de l'étude. Bien, ça, c'est à suivre. Hein?
Oui.
Voilà.
On suivra ça en 2025. On devrait avoir d'autres résultats. Dans plusieurs mois.
Plusieurs nouvelles autour de l'emploi. On le rappelle, c'était la semaine de l'emploi pour les personnes en situation de handicap en Europe.
Oui, donc rien d'étonnant qu'il y ait quand même beaucoup de nouvelles à l'emploi. Entre autres, on a deux enquêtes sur la scolarité des étudiants en situation de handicap qui ont été menées par des fédérations dans le cadre des études de santé et de sport qui pointent les discriminations auxquelles font face ces derniers. Et il y aura présentation quant au monde professionnel. On en a parlé beaucoup, François.
C'est juste.
Effectivement, il y a énormément de discrimination encore pour les personnes en situation de handicap. L'enquête a été publiée en mars 2024 et a été menée avec d'autres fédérations en médecine, en kinésiothérapie, en santé dentaire, en sciences infirmières, en psychomotrie, en orthophonie, en obstétrique et d'autres. Et donc, on parle quand même de 48,2% des répondants qui ont subi des discriminations qui sont étudiants, donc qui ont subi des discriminations des enseignants. Et donc, 62% d'entre eux craignent que les handicaps nuisent à leur réussite et 70% ont une aide pour les examens. Seuls 33% bénéficient pour les nombreux stages.
Oh oui, donc, surtout si là on parlait de facultés qui ont été étudiées, étaient des facultés où les étudiants et étudiantes font beaucoup de stages dans les sciences de la santé.
On parle de sciences de la santé, effectivement, et on parle aussi que il y aurait des... Tu sais, donc, effectivement, il y a beaucoup de stages et on peut penser donc que les gens ne veulent pas être discriminés dans leurs stages, donc qu'ils essaient de demander au moins d'adaptation possible ou de cacher une partie de leur diagnostic, ce qu'on voit souvent, ce qu'on a vu dans d'autres études, mais c'est quand même malheureux qu'on en soit encore là en 2024 et que les gens quand même aient peur, encore une fois, de s'afficher de peur d'avoir des représailles.
Oui, et pourtant en France, il y a 60 000 étudiants accompagnés dans une mission éducative qui vivent avec une situation de handicap et le budget de l'État français est passé de 7 à 22 millions d'euros en 3 ans. Toutefois, les besoins restent immenses, tout à fait, et c'est une réalité que vous connaissez bien, hein, parce que vous avez fait tout votre cours.
J'ai été étudiante pendant longtemps, jusqu'au doctorat, donc on pourrait en parler, faire une thérapie de groupe sur les ondes éventuellement, François.
Ouais, ben c'est bien ça, on garde ça pour peut-être la semaine prochaine.
Ah oui, on s'appelle. Voilà.
Du 18 au 24 novembre, c'est la semaine européenne, la semaine européenne de l'emploi pour les personnes handicapées, et il y a une... il y a eu un grand colloque, encore une fois, qui, lui, parlait plutôt de l'emploi dans le secteur agroalimentaire, mais vraiment agro, là. On parle les mains dans la terre.
Oui, les mains dans la terre, à l'extérieur, François, là, tout pour me plaire, hein, vous me connaissez. Donc, on parle quand même que pour les personnes en situation de handicap, il y a possibilité d'emploi dans ces endroits-là. Puis souvent, c'est mal connu, hein, parce qu'on pense que les personnes en situation de handicap ne peuvent pas faire du travail manuel. Donc, le colloque a lieu donc le vendredi 15 novembre. Il y avait des dizaines de représentants issus de milieux partenaires syndicaux ou associatifs pour parier justement autour de l'emploi, des possibilités d'emploi pour les personnes en situation de handicap.
Et particulièrement, si je peux me permettre, les personnes qui vivent avec des troubles liés au spectre de l'autisme, où semble-t-il que le travail maraîcher ou le paysagement, justement, soit particulièrement bien reçu, parce qu'il s'agit, à ce qu'on nous dit, de travail qui est rectiligne, carré, organisé, avec donc...
où on peut répéter les mêmes tâches, où on a un environnement quand même qui est ouvert, donc où il y a moins de gens qui se pillent un par-dessus l'autre, au niveau du bruit, c'est moins enclavé aussi, donc ça peut répondre à certaines caractéristiques du spectre de l'autisme. Évidemment, on généralise ici, là, chacun ses besoins, mais pour les personnes que ça concerne, il ne faut pas de prime abord rejeter cette possibilité-là sans s'informer.
Tout à fait, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus citadins pour qui l'idée d'avoir un petit peu de terreau en dessous des ongles, là, ça semble rebutant, mais...
c'est sûr qu'il ne faut pas avoir peur des microbes, François.
Ben, il faut comprendre que beaucoup des choses qui se ramassent devant nous sur notre assiette, ben, viennent de là. Pour terminer, avant la pause, un autre petit truc sur l'emploi, et ça, c'est intéressant. On parle des DUOD, ces journées où quelqu'un qui vit en situation de handicap passe une journée chez un employeur.
Oui.
Mais ça a des limitations et ça peut être fait dans l'autre sens.
Oui, bien, ça a des travers, François. On en a souvent parlé ici. Oui. On n'est pas contre l'idée, bien sûr. Ça permet à des gens d'intégrer l'emploi puis de montrer aux employeurs, finalement, qu'ils ne sont pas si difficiles à intégrer à l'emploi. Par contre, il y a des gens qui écrivent, donc, dans le cadre du DOD, un premier ministre, François Barnier, recevra le 21 novembre son binôme et... Malgré les progrès notables de ces nombreuses initiatives, on regarde pour avoir des DUOD qui soient
dans
plus ouverts.
Sens, dans l'autre sens, on parle plutôt que les employeurs visitent des endroits où des personnes en situation de handicap sont intégrées pour éviter, au contraire, justement, le syndrome du petit nouveau.
Et de l'imposteur,
et de l'imposteur. Alors, ça peut être intéressant de faire des DUOD dans les deux sens, pas juste des employés potentiels qui se sentent un peu mal à l'aise.
Oui, effectivement.
Mais plutôt des employeurs qui vont visiter d'autres entreprises déjà adaptées. Après la pause, on continue dans cette thématique de l'emploi.
Écoutez Sans détour avec François Beauregard.
Et Élisane Pellerin fait la revue de presse toujours. Et pour terminer encore sur l'handicap et la réussite entrepreneuriale.
Oui. Donc, il y a une nouvelle voie des réussites dans le salaire entrepreneurial. On parle de restaurants, François.
Oh.
Le Réfier, l'un à Nantes et l'autre à Paris,
d'accord,
qui ont été créés par l'association Les Extraordinaires, qui sont une dizaine de salariés qui s'affairent en cuisine et en salle, qui ont la trisomie 21 pour la moitié d'entre eux. Donc, on parle d'assiettes...
Ergonomique,
c'est-à-dire oui.
Des assiettes qui sont faciles à tenir dans la main. Mais ça, c'est intéressant, ça.
Oui, et on parle donc davantage d'assurance de la part des serveurs, des clients, des personnalités publiques qui dénoncent avec humour des situations absurdes auxquelles ils sont confrontés, les personnes en situation de handicap.
L'Extra est un établissement gastronomique et inclusif qui est coté au Michelin à Reims. Ça, c'est en plus donc du reflet de Nantes et Paris. Il y a un autre restaurant qui s'appelle l'Extra, Extra avec un A majuscule à la fin, qui est coté Michelin. Alors, on doit bien manger. Le restaurant gastronomique et inclusif, l'Extra a monté, encore une fois, il s'agit d'une société coopérative d'intérêt collectif qui intègre dans son milieu de travail des personnes qui, entre autres, vivent avec une trisomie ou des troubles autistiques ou autres. Dans le cadre d'une étude, d'ailleurs, à ce sujet, menée aux États-Unis en collaboration avec la National Down Syndrome Society, il y a eu, un tour d'horizon des personnes d'entrepreneurs qui ont du succès aux États-Unis qui vivent avec une trisomie 21. Alors, des gens qui se sont lancés dans des entreprises de fabrication de biscuits, de sauces, de toutes sortes de trucs délicieux à manger avec de la crème glacée, des bonbons, mais ça, à chaque fois, dans des états différents.
Oui.
Alors, semble-t-il que les gens qui vivent avec une trisomie 21 sont très bons pour démarrer des entreprises culinaires.
Oui, hein, et voilà. C'est particulièrement intéressant dans l'optique où ils ont quand même un certain contrôle sur les décisions. Ils ne sont pas simplement...
Que des employés intégrés, mais ils sont les patrons.
Ils sont des entrepreneurs intégrés, et ça, on aime ça.
Tout à fait. Donc, du 18 au 23 novembre, la deuxième saison du programme court qui s'appelle « Tous en scène pour le handicap » a été diffusée sur les chaînes de France Télévisions. Alors là, on quitte l'emploi puis on s'en va sur une représentation à la télé. 11 épisodes portés par 10 artistes et personnalités publiques qui dénonçaient avec humour des situations absurdes auxquelles sont confrontées des personnes. Alors peut-être on peut retrouver ça sur YouTube, je ne sais pas, on peut aller fouiller. Alors ça s'appelle, la saison du programme court, ça s'appelle « Tous en scène ». Et ce sont des émissions où on voit des personnalités qui font des sketchs. Et non seulement les comédiens connus font le sketch qui représente une situation embarrassante vécue par des personnes handicapées en France, qui ont envoyé des petites lettres en disant « voici ce qui m'est déjà arrivé ». Ça, c'est comme ça que le scénario démarre. Mais en plus de ça, la personne qui a écrit la lettre est aussi à la télé et discute avec le comédien de ce qui s'est passé en réalité. Alors, c'est une façon de rire de ce qui arrive tout en essayant d'abattre des tabous. Alors, ce sera à suivre, ça, à la télé.
Effectivement, et ça aussi, c'est intéressant dans l'optique où on parle de choses qui sont arrivées pour vrai et qu'on précise que ça a été, que c'est arrivé pour vrai. Donc, ça peut montrer aux gens du public à quel point la vie des personnes en situation de handicap peut être difficile et peut avoir des choses assez risibles là, qui peuvent arriver au quotidien.
Tout à fait. Maintenant, chez nous.
Ah, oui, le retour à la maison.
Retour à la maison.
Oui, on parle de 13e mini-défi pour les jeunes en situation de handicap. En situation de handicap, oui, qui a lieu donc à l'Université du Québec à Trois-Rivières.
Ah, mais on vous parle connaissez de... ça, l'Université
oui.
du Québec à Trois-Rivières?
Oui.
Ben oui, c'est...
On parle de défi sportif, donc, pour des personnes vivant avec une déficience motrice, visuelle ou auditive. Oui. Ça a été donc. Organisé par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie, du Centre du Québec. Donc, ça permet à des jeunes acquiettes...
Une soixantaine hein, de jeunes de 5 à 16 ans.
De montrer leur sport et d'être encouragés dans le fait de faire du sport. Et bien sûr, c'est un événement communautaire pour valoriser le fait de faire du sport, de bouger ensemble et le faire même si on a une situation de handicap.
Ben, il me semble que la semaine dernière, vous nous parliez d'une étude justement à l'UQTR qui parlait des bienfaits de l'activité physique.
Effectivement, il y a UQTR, donc, entre autres, CHR, autodétermination et handicap aussi.
À laquelle vous participez de façon plus qu'active.
Pour laquelle je travaille, François.
Voilà.
Et un de nos partenaires, c'est le CIUS MCQ, donc Mauricie Centre du Québec, qui travaille avec nous sur plusieurs projets. Effectivement, il y a plusieurs bénéfices à faire de l'activité physique, que ce soit en équipe avec des personnes qui n'ont pas de situation de handicap ou en équipe fermée. En tous les cas, on trouve des bénéfices au fait de bouger. Ça aide aussi au niveau, évidemment au niveau physique, mais également au niveau de la santé mentale et de l'inclusion sociale des gens. Donc, effectivement, on a toutes sortes de projets pour ça et on continue d'essayer de faire avancer les choses au niveau de l'inclusion.
Parfait. Ben bravo, UQTR.
Bravo, UQTR.
Voilà. À Joliette, toujours parlant de parasport, Joliette a été honorée.
Oui, à l'occasion d'un gala pour son 40e anniversaire, l'organisme parasport a honoré la ville de Joliette en lui décernant le prix du président Équité, François.
Parasport Québec, dont on parlait d'ailleurs en tout début d'émission, parce qu'on avait avec nous Samuel Lachaine qui parlait du sport, du power share du soccer ou du foot-fauteuil.
Foot-fauteuil, j'aime
ça. Le foot-fauteuil, c'est joli, hein, le foot-fauteuil. Alors, le service municipal du loisir et de la culture de la municipalité lanaudoise, on parle ici de Joliette, s'est distingué par son dynamisme ainsi que par son engagement envers l'équité, l'accessibilité et l'inclusion. Avec un projet collaboratif depuis 2023, l'année dernière, Joliette collabore avec ses partenaires du milieu des sports et des loisirs adaptés dans le but d'offrir une série d'activités sportives gratuites. Ah, ça, c'est bien. Animé, c'est mieux. Accessible, c'est parfait. Pour les personnes de tout âge. Alors,
ont un handicap physique. Donc, on parle de 13 activités sportives adaptées qui ont été déployées à Joliette depuis 2023. Ça a permis de faire découvrir un parasport à 80 personnes.
Bravo. Ben ça, c'est un prix qui est bien mérité. Tout à fait. La création d'une première... la semaine dernière, nous étions en Gaspésie.
Oui.
Mais nous y retournons.
Oui, j'aime bien retourner à Gaspésie.
Ben, moi aussi, c'est une belle
place. Pourquoi pas?
Oui.
Donc, on parle de la création d'une première maison de soins palliatifs en Gaspésie, qui est en progression, François, mais le fait qu'on en ait déjà une première, qu'on ait un projet, est déjà une bonne nouvelle.
On cherche du financement, puis on est en train d'y arriver.
Oui, donc on a récolté à date 3,2 millions de dollars sur un objectif de 5 millions. Donc, c'est pas si mal, François. On a plus qu'à moitié. Le président du conseil d'administration de la Maison des soins palliatifs de Baie-des-Chaleurs affirme que le terrain a déjà été identifié à New Richmond pour la construction. Et on aurait donc des médecins qui sont intéressés à y travailler. Donc, ça avance,
bien.
François.
C'est...
Et imaginer quand on est en région éloignée, ne pas avoir de maison de soins palliatifs, oui. C'est problématique.
C'est terrible pour les proches, pour toute la famille qui veulent accompagner quelqu'un dans ces moments-là. C'est d'être obligé de voyager puis de...
Oui, ça fait des frais. d'être à l'hôpital dans un endroit très médicalisé.
Qui n'est pas le
c'est
qui,
pas idéal.
C'est pas évidemment la capitale de la sérénité. Alors que être à New Richmond, près de la baie des Chaleurs, avec la mer, le soleil, être dans son milieu.
Et dans un environnement palliatif, donc qu'on essaie, d'habitude, les maisons palliatives ont moins l'air médical, ça a plus l'air d'une maison,
c'est
plus chaleureux.
Oui, tout à fait. On veut être plus, je dirais, plus chez soi ou quelque chose. Bien, ça, c'est tant mieux. Voilà. J'avais l'impression que quelqu'un frappait à la porte, mais je pense que c'est notre ami Norton qui...
Norton s'est déplacé, s'est collé sur mes pieds.
Pour ceux qui ne le connaissent pas, Norton est un très sympathique Labrador.
Labrador Bouvier-Bernois, donc un Labrador de la Fondation Mira.
Qui n'est pas une petite bête, là.
Non,
hein?
Il est gros, et quand il se déplace, ça fait du bruit.
Ça fait du bruit dans le studio. Bon, mais ben, tant mieux pour Norton. J'espère qu'il a trouvé une position confortable.
Oui, ça va, il est sur mes pieds, tout va bien.
Parfait. Des aménagements new-yorkais. Ah, tiens, comme exemple, pour la sécurité des aînés à Québec.
Oui, on a parlé, François, aussi. Je crois que c'est la semaine dernière, donc... On a un plan pour les années 2025, 2029 pour les aînés qui sont surreprésentés dans les bilans d'accidents mortels à Québec. Donc, on a un plan au cœur des interventions en matière de sécurité routière. C'est inspiré des seniors Palestine Zone de New York, qu'on peut traduire par des zones piétonnes pour aînés.
Oui. Ben, à New York, ils ont fait l'expérience de cibler des quartiers où la population aînée était particulièrement élevée et de transformer ou de modifier la circulation automobile et les accès aux piétons. Dans ces zones, on a des aménagements réalisés avec une forte concentration de clientèle aînée, des feux piétons qui sont prolongés, des ajouts de mobilier urbain, justement, pour pouvoir se reposer, de bollards. Le bollard, c'est les gros piliers en ciment là, qu'on met parfois dans les routes pour modérer les ardeurs des automobilistes.
Des ralentisseurs,
des dos d'âne, la création d'îlots de refuge au centre de la chaussée. Ça, c'est quand on traverse un très large boulevard. Parfois, on ne peut pas faire ça d'un seul coup. Tout cela sera considéré pour redonner aux piétons âgés un sentiment de sécurité. C'est ce que nous dit le maire de Québec, M. Marchand, parce qu'en fait, à Québec, les personnes qui ont 65 ans et plus ne représentent que 20% de la population, mais le pourcentage des victimes des piétonnes, les personnes âgées sont plus de la moitié.
Oui.
Alors, c'est évident que lorsqu'on est un peu moins rapide dans ses déplacements, on devient tout d'un coup beaucoup plus vulnérable.
Et à New York, donc, les initiatives semblables ont permis de réduire jusqu'à 60 % les décès d'aînés marcheurs. Donc, c'est énorme.
Ça fonctionne.
Ça fonctionne. C'est signe que ça fonctionne, François. Et effectivement, donc, on a un projet ou on veut un résultat de 50 % de moins de collisions mortelles impliquant des aînés ou des collisions graves impliquant des aînés. Donc, on a quand même des objectifs ambitieux.
Oui.
Parce qu'au bout de la ligne, en fait, c'est la vision de zéro décès.
Tout à fait.
Et cyclistes d'ici 2040.
C'est bien d'avoir moitié moins de victimes, mais ça ne demeure pas moins que ça fait des victimes. Hein? Alors, idéalement, c'est vision zéro.
Oui.
Comme quoi, aucun accident, aucun blessé grave, aucun décès n'est acceptable.
Mais commençons par 50 % François, et quand on aura atteint 50 % on pourra baisser encore plus pour atteindre le zéro.
Moi, je vous avoue que ce que je trouve particulièrement désolant, c'est les matins la semaine, pas loin de chez moi, il y a une garderie.
Oui.
Et on voit, il y a plein d'enfants qui traversent la rue, il y a des brigadières scolaires. Mais moi, ce qui me frappe, ce sont les parents qui, une fois que l'enfant a été confié à la garderie, là, vite, faut qu'il aille au travail. Alors là, on voit beaucoup d'autos qui s'éloignent de la garderie avec des adultes au volant.
qui vont très rapidement.
Qui vont très vite. Ouais. Alors, c'est comme après avoir fait attention à leur enfant, ben, ils font pas tellement attention aux enfants voisins.
Voilà.
Je vous jure, c'est assez frappant, ça. C'est parents torpilles.
C'est
là.
Un peu triste comme constat, François, mais ça montre à quel point on est dans une...
Je peux comprendre qu'ils ont un meeting très important à 8h30, là, puis il est déjà 8h05, mais tout de même, ça fait un peu ridicule de voir...
Ça montre un peu à quel point notre société veut aller très vite et est prête à prendre des risques pour sauver 2 ou 3 minutes.
Oui, tout à fait. Ah là là, productivité quand tu nous tiens. Le crédit d'impôt pour la prolongation de carrière, bien ça, c'est de valeur pour les aînés, les gens de 65 ans et plus qui travaillent encore.
Oui, donc malheureusement, on va avoir 1 000 $ de moins pour de nombreux travailleurs, des travailleurs en fin de carrière. Donc, ce sera les premières victimes du retour à l'équilibre budgétaire dont on entend tant parler, François.
Oui.
Québec fait passer l'âge minimum du crédit d'impôt pour la prolongation de carrière à 65 ans, privant ainsi des milliers de personnes d'environ 1 000 $ annuellement.
De crédit d'impôt, en contrepartie, les travailleurs âgés de 65 ans et plus auront droit à une bonification de 210. Et là, ici, vous avez devant vous un travailleur de 66 ans. Bon, alors, faut pas que je me pète les bretelles, là, pour ceux qui ont entre 60 et 65. Mais effectivement, quand il y a une pénurie d'emplois, on ouvre très grandes les portes.
Et puis, des fois, on pousse un petit peu.
Oui, voilà.
Et les gens retournent sur le marché du travail, mais bon. C'est pas nécessairement la bonne façon de faire, mais écoutez, on fait ce qu'on peut pour avoir des employés sur le marché de l'emploi.
Bien, je pense que c'est un reflet d'une baisse de natalité et d'un vieillissement de la population. L'âge moyen de la retraite au Québec est passé de 61,3 ans en 2011 à 64,7 ans aujourd'hui.
Oui.
Est-ce que c'est par nécessité économique ou par désir de meubler ses loisirs?
D'après vous, François?
Bien, je dirais 2/3, c'est la nécessité,
ouais, voilà.
Puis 1/3, c'est meubler les loisirs.
Ça vient avec le fait que l'épicerie nous coûte excessivement cher et que les loyers ont augmenté énormément.
Bien oui, c'est pour ça qu'on a des mesures fiscales
Sinon, les gens iraient jouer au golf, François.
Oui, bien là, je vais vous faire un petit éditorial, là. Les mesures annoncées la semaine dernière, comme quoi des gens qui ont des revenus jusqu'à 150 000 $ vont recevoir 250 par la poste, alors que les personnes qui ne travaillent pas, comme les aînés, ne reçoivent pas d'argent. Ça, je trouve que c'est beaucoup d'argent mal ciblé. Mais
ben, ça montre les priorités et à quel point, je vous le disais, François, on pousse les gens un petit peu.
Moi, je pense que ça montre
le marché d'emploi.
Ça ressemble à un truc qui a été concocté sur le coin d'un bureau tard la veille.
Ça ressemble à des élections qui s'en viennent, François.
Ah oui, peut-être, hein, pensez-vous.
Je pense que oui.
Je sais pas, on va chercher des telles choses. Mais nous ne serons pas cyniques, on va vous revenir avec une bonne nouvelle juste après la pause musicale. Thank you. voilà, c'était Wes Montgomery, How Insensitive. Mais en fait, on me dit que la pièce, le titre est en espagnol, Insacentes. Wes Montgomery. Alors, on retient ça. Tout à l'heure, à 12h45, j'ai oublié de vous le mentionner, mais à que cela ne tienne, on la fera rejouer la semaine prochaine. C'est un artiste français qui s'appelle Baumel, B-O-M-E-L. Alors, comme je ne l'ai pas nommé, il faut que ça rejoue la semaine prochaine. Voilà. Alors, c'est déjà décidé. Cela dit, on parlait des mesures fiscales qui peuvent coincer des gens, mais il y en a une qui est intéressante pour le déneigement, entre autres.
Oui, vous me connaissez, François, hein, je ne voulais jamais sur une mauvaise nouvelle.
Tout à fait.
Donc, il y a de nombreux Québécois qui pourront se faire rembourser jusqu'à 700 $ pour leur déneigement.
700 ou 7000?
7000 $. Ouh! Vous avez tout à fait raison, François, j'ai oublié.
Ben oui, je me suis dit, c'est peut-être pas qu'il y en avait mis une trop. Mais c'est 7000 pour le déneigement. Ça, c'est beaucoup de neige, ça.
C'est beaucoup de neige, François. Moi, ça me coûte pas ça.
Non.
Mais peut-être que je n'ai pas une entrée assez grosse.
Mais 7000 $, c'est ou bien quelqu'un qui... Mais peut-être pour, une entrée très longue qui amène jusqu'à un chemin. Mais ça couvre plus que le déneigement, tout de même.
Oui. Donc, alors que l'automne est installé, François, qu'il faudra en parler bientôt. Donc, on va pouvoir se faire effectivement rembourser... À l'année d'imposition 2023, si vous remplissez deux conditions d'admissibilité, donc de résider au Québec en date du 31 décembre 2023 et avoir 70 ans et plus.
Oui, parce que ça, ce sont des mesures qui sont dans le cadre des crédits d'impôt pour aider les aînés à rester à la maison.
Oui, pour favoriser le maintien donc des personnes âgées à domicile, étant donné ici la situation de manque de place dans les CHSLD et dans les autres maisons de retraite. Donc, effectivement, on essaie de mettre plus de services pour garder les gens à domicile plus longtemps.
Tout à fait. Et on ne parle pas que de déneigement dans ce cas-ci. Déneigement, évidemment, ça frappe l'imagination parce que tout le monde sait ce que c'est. Mais on parle aussi de d'autres types de travaux ménagers, ainsi de suite. De cette manière-là, ben, ça ne sera pas que 7000 $ pour le déneigement parce que ça me semblerait être un peu excessif et difficile d'envisager que quelqu'un puisse toucher 7000 $ ou dépenser 7000 $ en déneigement.
Oui.
Ça, donc, il faut tout de même, avant de s'emballer, là, il faut être résident du Québec au 31 décembre. Ça ne devrait pas être trop difficile. Et vous devez avoir 70 ans ou plus parce que c'est ça qui, si vous avez eu 70 ans dans l'année, seules les dépenses payées pour des services rendus à partir du moment où vous avez atteint 70 ans donnent droit à ces crédits d'impôt. Et encore une fois, ce n'est pas que le déneigement, ça peut être d'autres travaux propres au maintien d'une maison ou d'un appartement ou d'un logement pour une personne de 70 ans et plus. Alors voilà, gardez, ça ne paraît pas, mais il faut garder ses reçus de déneigement.
Oui, il faut garder tous ses reçus, François.
Si on prend... voilà, Le biscuit Oreo revient du bon et du mauvais côté. C'est plus difficile en Montérégie-Est pour avoir son vaccin.
Oui, on parle de milliers d'aînés en RPA qui doivent se déplacer pour obtenir un vaccin de la grippe, François.
Oh.
Ce qui n'est pas, ce qui est pas
c'est
fameux.
C'est beaucoup, c'est 10 000 aînés en RPA en Montérégie-Est.
Oui, et ça doit arriver donc dans d'autres régions du Québec, bien sûr. Mais il y a l'article dont on parlait, vraiment de Montérégie-Est. Donc, effectivement, là, on ne fait pas le service dans les RPA pour faire la vaccination de la grippe, alors qu'on le fait généralement dans les autres RPA. Donc, ça oblige certaines personnes, évidemment, à se déplacer.
Ou qui ne peuvent simplement pas se déplacer.
Et effectivement, il y a des gens effectivement, qui n'iront pas, François, parce que c'est très complexe de se déplacer, particulièrement quand on a des problèmes de mobilité. Il faut sûrement avoir quelqu'un qui vient avec nous, là, bon, pour des questions d'horaire et tout ça. C'est plus facile de ne pas l'avoir au final, mais ça pourrait évidemment emmener des mauvaises surprises. On sait qu'à grippe, lorsqu'elle est très forte, comme c'est le cas cette année, peut apporter énormément de complications de santé et permettre un petit voyage à l'hôpital, ce qui n'est pas idéal, bien sûr.
Non, tout à fait. Et ce qui est, enfin, il semble que ces mesures-là, et c'était déjà le cas qu'il n'y avait pas cette vaccination en RPA avant la pandémie, que ce sont des mesures qui ont été prises dans le contexte de la COVID, mais que maintenant, on revient à la normale. Mais vous savez ce que c'est, hein? On s'habitue.
On s'habitue, effectivement.
On s'habitue aux bonnes choses.
Il y a des bonnes idées qui sont apparues pendant la COVID. Hein? Il y a des idées qu'on pourrait garder.
Qu'on pourrait regarder, tout à fait.
Ça, c'en est une qu'on pourrait garder.
Exactement. Ah, bien, parlant de Noël, pour terminer, parce que bientôt, on va mettre son arbre, sa couronne, monter l'arbre, mettre les lumières, mettre la couronne à la porte. Bien, l'INCA nous invite à aller fêter Noël, et pas une fois, mais trois fois.
Oui.
Voilà. Alors, Noël en virtuel pour adultes.
Oui, donc on parle du mercredi 11 décembre de 13h30 à 15h, François. Ce sera possible donc sur Zoom.
Un Noël Zoom.
Oui, mais ça permet quand même d'avoir des interactions avec des gens, donc ce n'est pas une mauvaise idée pour qui.
Tout à fait. Ah, puis quand on a eu la COVID, on a fait le Noël sur Zoom, on sait ce que c'est. Et pour les ados et les jeunes adultes de moins de 30 ans, ce sera le même jour, mercredi le 11 décembre, de 18h30 à 20h30, toujours sur Zoom. On peut aussi, le lendemain, jeudi 12 décembre, là, c'est en personne pour tout le monde.
On peut donc se présenter au Hub d'Inca, qui est au 2085 rue Pertonnet à Montréal.
De 16 à 20 heures?
Oui, pour aller célébrer donc Noël avec la communauté. C'est au coût de 15 $. Et il y aura des jeux amusants, des petites bouchées, évidemment, un souper de Noël, des tirages, des chants de Noël, des danses et évidemment beaucoup de plaisir.
On parle de danse énergique. Oh là 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 là!
Oui, donc...
Ça, c'est après la bûche, ça. Ça doit
être
ça.
Oui, voilà. C'est après la bûche de Noël qui est pleine de sucre. Donc, effectivement, François, si vous ne le dansez pas de façon énergique, on ne veut
Ça, l'énergique, ça dépend de tout le monde. Alors, voilà. Mais faites vite. Les places sont limitées pour cette fête du 12 décembre. Vous avez jusqu'à lundi le 9 pour vous inscrire. Et pour ce faire, vous pouvez vous inscrire en composant le 514-934-4622. 514-934-4622. 4622 ou encore le 1-800-465-4622, poste 245. C'est David Trudel Bergamo. Ça, c'est pour le party de Noël en présentiel. Pour ce qui est du Zoom, ça, c'est autre chose.
Oui, pour ce qui est du Zoom, en fait, il faut contacter Salma Moudric, donc au 514-934-4622. 514-934-4622.
Bravo.
Donc, pour ceux qui veulent faire le Zoom pour les jeunes adultes ou pour les adultes. Donc, effectivement, selon votre choix, vous contactez la personne.
Et pourquoi pas les deux, hein?
Et pourquoi pas les deux, François?
Voilà. Alors, bien, on vous souhaite une belle semaine. C'est le temps de commencer à faire ces listes de cadeaux, d'accrocher les trucs... après les cadres de porte et tout ça.
De monter le sapin.
Et oui, ça, c'est important. Hein? Norton, je suis sûr qu'il aime beaucoup. Alors, merci beaucoup, Mathieu Tessier à la régie, Claire Guérin à la recherche, Mme Pellerin, mes salutations. Et
merci.
On se reparle la semaine prochaine.
La semaine prochaine.
À Sans Détour.
Après la pause, notre équipe...